Morey. Live.
Live. Avec Dominique Morey, Dan Gravel et Dom Dumas.
Radio X.
Le micro-ondes, le sac à surprise, les extraits, et j'en ai quand même une coupe, ça va être le fun. Bon vendredi à tous, 8h44. On commence avec Mathieu Baron, qui a parlé avec Alimentation Première dans son podcast. Puis il n'y a pas la langue dans sa poche, j'aime bien ça.
L'Amérique du Nord, c'est beaucoup le paraître. Je donne souvent l'exemple niaiseux d'une bouteille de vin. En Suisse, en Italie, ça va être « Hey, qu'est-ce que tu bois? C'est quoi le vin que tu bois? C'est quel cépage? » Ici, c'est « C'est quoi tu bois? » « Esti, 300 piastres, là. » Mais encore là, tu pourrais payer 300 piastres. Tu sais même pas c'est quel cépage. Esti, noix. C'est vrai que c'est de même. Hey, t'en mets-tu un verre? 300 piastres. Il est bon. Il est bon. Mais tu sais pas qu'est-ce que tu bois, le clown? C'est tout le temps dans le pareil, le combien ça coûte. En Europe, en éducation physique, nous, on avait 45 minutes d'allouer après le cours d'éducation physique pour prendre ta douche. Ici, tu envoies tes enfants à l'école privée, moi, 12 000 par année, ça me coûte. En débardeur, le polo, l'école privée, prends-tu sa douche après son cours d'éduc? Non, sans le calice, il y a 14 ans, il pue.
Mais il est bien habillé.
Ben, il est bien habillé, par exemple.
En voulez-vous d'autres, Mathieu Baron? Cette fois-là, il a parlé de santé.
Là, m'a pogné les nerfs. J'ai attendu 16 ans avant de réussir de trouver un psychiatre spécialisé en déficience intellectuelle pour mon frère.
16 ans.
16 ans.
Mais au Québec, on est chanceux, on paye pas l'assurance maladie.
Ouais. Et grâce à un contact à moi, j'ai réussi à avoir un rendez-vous d'une heure à 1 800 $ cash.
1 800 $
cash. Fait que tu veux-tu qu'on se parle de vrais problèmes quand moi, je suis pas capable d'avoir la bonne médication pour mon frère parce qu'il y a pas de spécialiste disponible, mais... Toi, tu peux rentrer chez nous demain matin, marcher comme un chat, puis il faut que je te parle en disant miaou.
Ah oui, c'est ça. Il y a du gaz. C'est le fun, il y a du gaz. Puis pendant ce temps-là, en France, on parle de quoi? On parle de Bruel, bien entendu. Ah, oh, il est coupable, il est coupable. On est vraiment rendu dans cette tendance-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes? Oui. Est-ce que c'est problématique? Oui. Et est-ce qu'on pourrait comprendre qu'on suspende un spectacle? Oui. Sauf qu'à un moment donné, on est peut-être rendu à dépasser... la limite, peut-être se rappeler à la gang que la présomption d'innocence existe.
Je voudrais nous inviter tous, intellectuels, journalistes, politiques, à nous taire. C'est ça.
Parce qu'il y a un temps judiciaire à respecter.
Voilà. C'est-à-dire, des plaintes ont été déposées. À la justice, il revient maintenant de faire son travail. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais ce qui me fait très peur... c'est de voir le tribunal populaire, par médias interposés, préempter et remplacer le tribunal judiciaire. C'est déjà arrivé, des vies ont été brisées, c'est une terrible régression. Et surtout quand on voit des animateurs, après des débats ou après des reportages, nous rappeler la bouche en cœur que Patrick Bruel est présumé innocent. Il a été piétiné, il a été accablé pendant une demi-heure, mais il est présumé innocent. S'il est présumé innocent, la ferme.
Mais ça continue en France, ça continue. Et l'une de ces plaignantes, justement, fait le tour des plateaux.
30 septembre 2006, vous êtes présenté une émission, c'est en marge d'une émission de TF1 à Bercy, et il vous dit « Tu te souviens, on a couché ensemble ». Et là, tout s'éclaire pour vous. Là, vous comprenez.
Absolument, mais je ne présente pas l'émission en fait, mais je suis en tout cas sur ce tournage et je le croise dans un couloir. J'avais toujours fait en sorte de ne jamais me retrouver en tête à tête avec lui, jamais tous les deux. Et je le croise dans un couloir, je le vois arriver, je me retourne, je vois qu'il n'y a absolument personne, je n'ai pas d'autre choix. Et il me prend dans ses bras et il me murmure à l'oreille, tu te souviens? Et je lui dis non, je me souviens de quoi? Et là il me dit bah... évidemment qu'on a couché ensemble. On a couché ensemble. Avec précisément ce regard que l'on voit partout aujourd'hui, ce regard qui est celui d'un prédateur. Et j'ai trouvé ce moment d'une parfaite impunité et ça m'a éclairé sur tout ce qui s'était passé dans cet appartement en 1991.
Et pourquoi vous ne portez pas plainte à ce moment-là en 2006? C'est pas prescrit à l'époque encore.
Mais je ne porte pas plainte parce que je suis absolument enfermée.
C'est ça. C'est possible qu'elle se sente enfermée. J'ai déjà été là-dedans. Par contre, Il faut soumettre les plaintes et les témoignages à l'épreuve des tribunaux. Parce qu'il y a présomption d'innocence. Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes? Oui. Mais entendons justement les plaintes et soumettons ça à un processus.
Surtout que là, il y en a 20, 30 qui disent qu'ils ont des allégations. Il peut y en avoir au moins 2, 3 qui l'accusent.
Mais la justice.
Sur le long, j'ai même pas besoin d'avoir les 20, 30.
Le parquet, là, la couronne. Mais il faut qu'il y ait procès.
Oui.
Mais il n'y a pas procès. Donc, il faut qu'il y ait procès, il faut qu'il soit jugé. Hors de tout doute raisonnable avec la preuve soumise et corroborée aussi. Là.
Parce que moi, c'est ça ma réaction.
C'est arrivé à peu près en Italie ou peut-être en Espagne ou au Canada. T'sais, un procès, là, ça sert à ça. Et est-ce que la justice est parfaite? Non. Nous vivons sur une terre imparfaite avec des gens imparfaits. Mais il faut que ça soit soumis d'hommes. C'est important.
Oui, c'est ça. Parce que moi, ma réaction, c'est toujours, j'ai pas d'affaire dans votre histoire. Je n'ai pas ce qu'il faut entre les mains pour juger. Ce n'est pas une cour de justice, justement. Vous ne m'avez pas présenté les faits. J'ai juste un côté de l'histoire, bien souvent. Je peux pas poser de questions. Donc, j'ai pas d'affaire dans votre histoire. C'est Amenez ça devant des gens compétents pour juger.
Il y a quelqu'un qui dit, c'est la même affaire, Michael Jackson n'a jamais été condamné. Ouais, Michael Jackson, il a payé très, très cher la famille d'un petit gars. Là. T'sais, moi, t'sais, je veux dire...
Il y a peut-être un côté aveu.
Non, mais tu sais... Ouais. Connaissez-vous beaucoup de monde qui sont prêts vraiment à vider tous leurs comptes de banque et à donner à quelqu'un qui dit des menteries? Tu sais, il faut faire attention. Mais vous avez raison. Sur l'aspect criminel, vous avez entièrement raison. Ça, je vous l'accorde. Tout ça se passe dans un pays qui est en faillite, un pays pauvre qui s'appelle la France.
Un Français a en effet un PIB par tête, c'est-à-dire la richesse produite par habitant, inférieur à celui d'un habitant de cet État méridional américain, qui est en effet le plus pauvre des États-Unis. 46 000 $ en France, contre 51 000 pour le Mississippi. Notez que pour la moyenne aux États-Unis, c'est 80 000, près de deux fois le PIB français. Différence considérable qui s'est quand même aggravée dans les dernières années.
Bon, mais les chiffres, il faut toujours les contextualiser, François. Ils sont vraiment significatifs.
Écoutez, c'est vrai qu'ils sont biaisés par le taux de change entre l'euro et le dollar, qui fluctue fortement pour de toute autre raison.
Oui.
Que l'euro soit plus fort comme il l'était il y a 20 ans, et on aurait une toute autre comparaison, bien plus favorable pour nous. Mais en réalité, il faudrait associer plusieurs indicateurs pour avoir une appréciation juste du rapport de force. Et puis utiliser ce qu'on appelle la méthode des parités de pouvoir d'achat, qui permet de corriger justement les fluctuations du marché des capitaux. Reste, Thomas, quand même une vérité qui est difficilement contestable. Un, l'Amérique a une croissance près de deux fois supérieure à celle de la zone euro depuis des années. Ouais. Et pas de biais ici, parce qu'on reste dans le même système de mesure de part et d'autre de l'Atlantique. Deux, au sein même de la zone euro, la position de la France se détériore. Nous avons été rattrapés par l'Italie, sans précédent. En France, il n'y a qu'une région française, l'Île-de-France, qui possède un niveau de vie supérieur à la moyenne européenne. C'est donc un double décrochage de la zone euro par rapport à l'Amérique et de la France au sein de la zone euro.
Ils sont vraiment, vraiment dans la merde. T'as posé la question si la France n'est pas en faillite. On écoute l'autre extrait.
Je pense que la France a du retard à rattraper. Elle avance. C'est difficile de le dire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est confronté à un événement climatique qui donne le sentiment qu'on n'est pas prêt et du reste on a encore beaucoup de travail à faire, mais elle avance.
Mais est-ce que ça fera l'objet de mesures massives votre programme?
Je vais vous répondre et en plus je vais vous répondre parce que je pense que le sujet que vous évoquez c'est un sujet qui est extrêmement important. Nous avons avancé. La France, parle pas de moi, la France a avancé. On a réduit nos émissions de CO2, on a lancé des plans d'adaptation. Il se passe des choses, regardez toutes les villes en France, elles ont lancé des plans d'adaptation à la transformation climatique. Il se passe des choses dans notre pays. Nous avançons. Est-ce que nous avançons assez vite pour faire face à une transformation aussi massive? Probablement pas. Probablement pas, je veux bien l'entendre. Donc, il est clair que nous devons avancer. Il est clair que l'enjeu de la transformation climatique, de l'adaptation à cette transformation climatique, est un enjeu politique qu'on ne peut pas nier. J'observe, dans le spectre politique tel qu'il s'exprime aujourd'hui, que vous avez d'un côté, à la droite extrême, des gens qui continuent à être climato-sceptiques, qui continuent à expliquer que non, vraiment, c'est vraiment pas un sujet, d'ailleurs, on a déjà vu ça. Bon, vous avez des gens qui continuent, alors, soit très fermement, soit indirectement, à nier la réalité du problème. Et vous avez à l'extrême gauche, à LFI, des gens qui disent, il y a un énorme problème, mais vous inquiétez pas, si on est élu, on arrête le nucléaire. Il n'y a pas de solution sans le nucléaire pour lutter face à la transformation climatique. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, j'observe que dans les pays proches de la France, qui s'étaient engagés, à mon avis, à mauvais escient dans cette voie, je pense par exemple à la Belgique, on est revenu en arrière parce que nécessité fait loi.
Donc le plan d'électrification avancé, ça me convient.
Ce sujet est un sujet qu'on ne peut pas méconnaître. C'est un sujet important. J'en ferai un enjeu majeur dans la campagne. Ouais. Nous devons impérativement décarboner notre production d'énergie et nous devons, dans le même temps, lancer un grand plan d'adaptation partout.
Et ça méritera
communes,
de la dépense
régions,
publique.
L'État.
Ça justifiera de la dépense publique.
Et de la dépense privée.
La France
un grand plan d'adaptation.
Dans un mur de ciment. Pas de casque.
Oui. Puis l'extrait d'avant parlait de la zone euro au grand complet. Pendant longtemps, le moteur de la zone euro, c'était l'Allemagne. Et là, l'Allemagne est stallée depuis plusieurs années à cause du virage vert côté énergie.
Profitons-en, on a du gaz, on peut les aider. Ben non, ils sont allés quitter du gaz à BC.
Ouais, il va passer par BC.
Ah, c'est complètement, complètement débile. Puis ici, quand même, on a nos problèmes, après tout. Et la question demeure pour certains. Ouais, Trudeau, au final, c'était peut-être le fils à Castro.
For years, we've heard rumors that Justin Trudeau, the former prime minister of Canada, could be your half-brother. What do you think of that?
I the only thing I can say is that his mother used to visit the country very often.
Well, that may be a tell then. I guess that's a half answer.
Yeah.
Do you plan to call him and maybe find out?
No. I won't do it. If he wants, he's going to be welcome, but I won't. I think he keeps that to himself, and you have to respect that.
C'est quelqu'un de la famille Castro. Je pense que c'est sa nièce à Castro. Okay. En entrevue à Newsmax. Aux États-Unis. Attends, elle dit pas que c'est le fils d'eux.
Non, non. Elle dit que Margaret était là souvent.
Elle était là souvent. Je vais laisser ça aux experts. Puis je vais finir avec, quand même, l'oreille grave. Un petit peu de sexe, peut-être, à l'heure actuelle. Il est 9h. On a le droit, ce vendredi. Le sexe au conseil, bien entendu. Il faut, il faut avoir les bons conseils à la bonne place. Le sexe au conseil du jour. Hey, les gars, bandez donc un petit peu plus.
Les injections, tous les traitements, et ça c'est vrai pour les gens qui ont eu une ablation de la prostate, peu importe, c'est pour éviter que le pénis perde, ça peut paraître idiot, mais il peut perdre l'habitude de bander. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement provoquer un afflux de sang dans le pénis, même si on n'est pas très excité, même si on n'est pas très dans l'envie, ne serait-ce que pour maintenir de manière mécanique cette érection, cet afflux de sang dans la verge. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien on va se retrouver quand la libido va revenir, quand le rythme sexuel va revenir, eh bien on va se retrouver avec une verge handicapée qui va avoir de plus en plus de mal à réagir et à avoir des érections satisfaisantes. Donc il est très important de maintenir alors je ne sais pas quel rythme ils vous ont proposé, mais c'est de une à deux fois par semaine. Une fois c'est déjà bien. Une érection, même si elle est mécanique, même si elle est induite par le produit, c'est pas...
Et même si vous n'en avez pas envie,
voilà,
en fait,
c'est
hein.
pas pour le plaisir.
Drette dans la verge. C'est ça, les gros sujets. Le micro-ondes, c'est le quartier général des gros sujets. Et je termine quand même avec le sujet des sujets ce matin. Hey, occupez-vous donc de l'anus de votre conjoint.
C'est sur des jouissances à l'issue de ce type d'exercice qu'à un moment, ça peut lui échapper parce que il est au bord.
Et puis, il y a une autre clé qu'on peut donner, qui est assez tabou, mais qui quand même, chez certains hommes, ça les fait lâcher un peu, c'est s'occuper de son anus.
Ah ben, évidemment.
Un petit doigt ou un petit plug, ça peut déclencher quelque chose.
On va commencer avec le doigt avant de lui mettre un petit plug, parce que là, je pense que sinon, il va nous appeler.
Il va porter plainte. Il va porter plainte pour non-consentement.
Alors, bien humide le petit doigt et les ongles coupés, hein, on ne sait jamais, je précise. Mais oui, malgré tout...
Vous êtes d'accord, Philippe, évidemment. Ça déclenche parfois...
Et puis ce qu'on appelle la pince de crabe, c'est-à-dire d'avoir le doigt à l'arrière et un doigt sous les testicules qui vient, si on stimule comme ça, c'est évident que le plaisir va être décuplé. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un orgasme, mais c'est vrai que l'intensité du plaisir sera vraiment là.
En général, ça peut les surprendre, mais il ne faut pas les prévenir. Hein.
Voilà, ça c'est ce qu'on fait quand on leur fait une fellation, par exemple.
Morey, nous sommes live. On revient dans pas long.
Désolé.
Radio X.